patient 98, salle C.
Dans la salle d'attente.
Ben, la doc Laberge est avec nous, très pompée par notre sujet précédent sur le cancer de la prostate, dont les médicaments qui suivent, par exemple, un problème de dysfonction érectile ne sont pas remboursés par la RAMQ. Puis je veux pas te partir là-dessus forcément, mais je trouvais que c'était intéressant quand même ce que tu m'as... Est-ce que la doc Laberge, elle trouve que ça devrait pas forcément être remboursé?
Pas nécessairement. Voilà. Un gars de 75 ans qui a déjà une dysfonction érectile, qui n'en a pas parlé parce qu'il est vasculaire, il fume son paquet par jour, je regrette, mais c'est pas nécessairement le Viagra qui va y sauver la vie après une prostatectomie ou sans prostatectomie.
Peut-être, mais dans un cas où il y a eu cancer de la prostate, ouais, et où la personne qui s'est fait enlever la prostate, l'homme,
un cours de
dit
six...
« Je n'ai jamais eu de problème érectile et là j'en ai, s'il vous plaît, je pourrais-tu avoir un médicament qui revient? »
D'abord,
je comprends que le gars ne veut pas payer 300$ par mois.
D'abord, là. Un cours de sexologie 6 semaines de temps, une fois par semaine, une heure et demie par semaine, pour remettre la sexualité masculine. Parce qu'un gars qui dit honnêtement que c'est vital, bien, je regrette, tu peux ne pas mourir à cause d'une dysfonction érectile. Organe vital, ça veut dire que si tu ne l'as pas ou il est déficient, tu meurs. Mm. Un pénis qui ne rentre pas en érection, tu ne meurs pas avec ça. Mm-hmm. Excuse-moi. Donc, ça prouve cependant que l'homme a érigé sa virilité sur le phénomène de l'érection et pénétration. Or, il y a
mais
des phénomènes qu'on peut expliquer.
Du sexe aussi,
on peut expliquer que des fois, hors de pénétration, point de salut, c'est pas vrai.
Ouais.
Alors, on peut donner aux hommes des formations. Et si après ça, en discutant avec sa partenaire, avec etc., et en pratiquant à la maison d'autres formes de sexualité réjouissante, mm-hmm. Ben après ça, il va voir son urologue, puis l'urologue dit « OK, vous avez suivi votre cours, le sexologue suggère, puis je vous prescris le Viagra ou les médicaments pour l'érection. » Fine. Mais moi, j'exigerais
un cours. La jouissance masculine...
Elle est là, pareil.
Non, mais si tu bandes pas, tu jouis pas?
Oui. Oui. Il y a des hommes qui ont des très faibles érections sans pénétration et qui ont quand même un orgasme.
OK. Là, je voulais qu'on parle du cœur d'Alain, mais sincèrement, regarde nos lignes.
On va parler du cœur d'Alain.
Moi, j'aimerais savoir, parce que ça, je viens d'en apprendre. Un gars qui bande pas, il jouit quand même.
Il y a des gars qui ont, au niveau de l'érection, une érection faible, mais qui ont quand même des orgasmes. On va aller à autre chose.
Ben là, écoute, j'apprends quelque chose.
On va au cœur.
Non, mais attends, parce qu'il y a des gars qui veulent nous parler de ça.
Ouais, mais
tu sais, cœur et pénis, il y a un lien, finalement.
Ben, on va parler d'autre chose parce que c'est plus que ça, OK? Fait que cœur, c'est pas normal qu'un gars de 57 ans fasse un infarctus. Alors, ben, quand on parle de malaise cardiaque, souvent, on va parler d'angine.
Mm-hmm.
Et quand on parle de crise cardiaque, on parle souvent d'infarctus ou en tout cas proche. La crise cardiaque, le malaise cardiaque, c'est quelqu'un, par exemple, qui va perdre connaissance. C'est quelqu'un qui va avoir une faiblesse. C'est quelqu'un qui va avoir une douleur en arrière de la poitrine. Il va arrêter de marcher ou de monter l'escalier et ça va arrêter. Il va arrêter son exercice, ça va arrêter. Donc, l'angine, c'est l'équivalent de ton cœur qui manque d'oxygène à un niveau X de demande. Si je t'annonce que ton fils, ta fille et ton mari sont morts dans un accident, je te jure, tu montes ta pression artérielle dans le plafond, tu montes ton rythme cardiaque dans le plafond, parce que ce stress-là induit par ton adrénaline qui va être à fond la caisse, mm-hmm. va faire que si tu as déjà des artères un peu fragiles, mm-hmm. je vais augmenter rapidement ta demande comme si tu montais les marches de l'oratoire en courant. Donc, cet exercice pour ton cœur qui est vraiment accéléré peut provoquer un malaise, c'est-à-dire mettre en lumière le blocage relatif que tu as au niveau de tes artères coronaires. Et quand tu vas te calmer, ça se peut que ça arrête. Mm. Quelqu'un qui vit un stress constant, on a souvent dit que cette personne-là avait un cortisol augmenté, une inflammation des artères et des systèmes collatéraux, le cerveau y compris, inflammatoire. On sait que le cancer et la maladie vasculaire sont des maladies inflammatoires.
Ouais.
D'où la diète méditerranéenne, qui est une diète anti-inflammatoire. On sait qu'il y a plein d'exercices est anti-inflammatoire. 150 minutes par semaine.
Mais tu vois, c'est ça qui est étonnant dans le cas d'Alain Chaquet. Oui. C'est quelqu'un que je connais bien, Alain. J'ai même eu l'occasion de faire un documentaire sur sa vie. Donc, on est assez amis. Il a écrit d'ailleurs sur ses réseaux sociaux qu'il devait reporter ses spectacles, qu'il doit se faire opérer. Oui. Donc, il est à l'hôpital. Oui. Il regarde la magie des stars de son lit d'hôpital. mais bon, disons qu'il a tenu à rassurer un peu tout le monde là-dessus, même si il peut pas faire d'entrevue, on comprend bien. Il faut qu'il se
repose.
Qu'il se repose parce que c'est sérieux ce qu'il a vécu comme malaise cardiaque. En même temps, c'est un gars, là, écoute, il mange bien, il est mince, il fait de l'activité physique. Ouais,
ouais. Un mot parfait que j'appelle.
Il fait vraiment attention à lui. Tu dis, moi, si tu m'avais dit, à part l'âge, puis peut-être la génétique.
J'aurais jamais gagé sur lui.
Puis ça, là, sa génétique, je lui laisse, je veux pas parler de ça.
C'est ça.
J'aurais pas gagé sur lui, j'aurais gagé sur d'autres bien avant. Là,
absolument. Puis moi, j'ai.
Écoute, c'est ça qui est étonnant. Là.
Mais tu vois, il y a des malades.
Il y a peut-être 57, mais il a l'air de 10 ans de moins. Fait que c'est ça.
Il y a des gens qui ont des maladies héréditaires, donc des cholestérols héréditaires, des lipémies, qu'on appelle des hyperlipémies héréditaires. Donc, eux, dans la famille, souvent, les parents, papa, les mononcles, les matantes, surtout les hommes, ont fait des infarctus ou des maladies vasculaires, des AVC jeunes, en bas de l'âge de 65 ans. Donc ça, déjà, un patient qui a ça, tu fais ding, 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 on va aller voir. Mm-hmm. Puis souvent, eux autres, c'est en bas de 40 ans. Donc, on va tester le cholestérol. On va regarder le tabagisme, on va regarder la diète, on va regarder tout ça. Mais on a des grands sportifs qui vont tomber comme ça. Ils peuvent tomber d'arythmie. Ils peuvent tomber de valves qu'on n'a pas vu aller, mais comme ils ont demandé beaucoup à leur cœur avec des exercices. Tu sais, les triathloniens ou les marathoniens qui, des fois, s'effondrent. Ben, ils peuvent faire des déshydratations, oui, mais ils peuvent faire des arythmies. Et ils ne savent pas qu'ils sont porteurs de quelque chose qui va précipiter une crise cardiaque. Puis, il y a des gens qui ont des malformations congénitales qui vont contrecarrer avec leur exercice. Ils vont compenser. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont des blocages sur une artère principale, celle qui nourrit les trois principales autres plus une accessoire. Et ce tronc commun-là peut être bloqué congénitalement. Hein, tu l'as à naissance, tu le sais
c'est
pas.
C'est ça, on sait pas.
Tu fais ton exercice. Ton exercice, ce qu'il fait, là, entre autres, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle des collatérales. Tu as un grand ruisseau qui fonctionne à moitié parce qu'à un moment donné, il est bloqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des petits ruisseaux à côté. Mm-hmm. Hein? S'il y a une grosse occlusion, il va faire un petit ruisseau. Avec le temps, il y a des gens sportifs qui vont développer beaucoup de collatéral et qui vont très bien vivre. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, l'examen annuel qu'on n'est pas supposé faire puis que les maudits vieux comme nous autres font pareil, un beau gars dans l'âge, tu sais, c'est 60 ans, super exercice, puis il fait juste me dire, j'ai dit, bien évidemment, au cœur, je te pose pas de questions, tu sais, si c'est un changement, puis tout ça. J'ai dit, le gars, il me montre son entraînement de malade qu'il avait fait la veille parce que son coach l'avait filmé pour montrer quel genre d'exercice on devait faire pour faire telle activité. Alors, le gars, il me dit, ouais, mais c'est juste que quand je commence à marcher sur le plat avec ma blonde, il dit, je suis un petit peu avec un malaise thoracique, un petit essoufflement, mais rendu au deuxième bloc, ça se place. Je fais ding, 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 ding.
Ah,
tronc commun, point d'interrogation. J'ai envoyé le gars à l'hôpital. Ils ont fait l'électro d'effort, ils l'ont arrêté, ils l'ont couché, puis ont dit, toi, demain matin, on t'opère.
Oh.
Alors le gars, il a été opéré le lendemain matin et ils ont fait un triple pontage. Aïe. Parce que ce gars-là, quand ils ont ouvert son cœur, parce que c'est à cœur ouvert, il y avait comme, je ne veux pas être écœurante, là, mais imagine les collatérales suffisamment grandes qu'elles étaient,
les petits vaisseaux
accessoires étaient aussi gros que les vaisseaux
que
principaux.
Ouais, ouais.
Donc, le gars avait développé ce qui l'avait protégé. Ils ont réparé en faisant les pontages sur ses blocages congénitaux.
Ouais, ouais.
Puis le gars...
Ils ont débloqué ses artères, finalement.
Ben, ils ont débloqué en faisant le tour, parce
c'est
que c'est ça un pontage.
Ouais.
Quand on débloque avec la balloune que les gens disent, on passe dans le vaisseau, on s'en va par le bras, l'artère du bras, brachial, on s'en va jusqu'au cœur. On passe une espèce de ballonnet, hein, on passe un tube, puis tout à coup, on a une petite ballonne qu'on peut gonfler. On gonfle la ballonne, on écrase le caillot sur le côté, on laisse un petit, ça s'appelle une endoprothèse, communément appelée un stent.
Pour garder ça là.
Pour garder ça ouvert, ça a l'air d'un petit ressort.
Mm-hmm.
On laisse ça ouvert, merci, bonsoir, on n'opère pas.
Ouais.
Mais dans un pontage, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le cœur, on prend une veine d'habitude de la jambe, puis on l'attache en haut du blocage, puis on passe par-dessus, puis on s'en va le coude en bas, de telle sorte que ça réouvre le vaisseau, et comme ça, on s'en sort. Mmh. Et effectivement, la convalescence est d'une couple de mois.
Parce qu'on pose la question, bon, comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de problème? La façon dont tu le décris, ça peut être un tueur silencieux.
Ah, c'est un tueur silencieux. Chez les gars très en forme, c'est souvent un tueur silencieux.
Il y a eu des exemples de Michel Berger, il y a longtemps. Ouais, à l'époque, joues au tennis, tu t'effondres, paf, t'es mort.
Mais t'as le gars.
Oui, écoute, on a sorti ça, on le connaît peu ici. Je sais pas, peut-être vous le connaissez, c'est un chanteur-compositeur folk qui s'appelle David Olney. Il est mort d'une crise cardiaque, il était sur scène. Samedi soir, tu sais, mais bon, 71 ans, vous allez dire, mais 71 ans aujourd'hui, c'est jeune, là. La preuve, c'est qu'il chante encore. On l'entend en ce moment de David Olney. Please don't bother trying to find her. Ben oui, on le connaît. Ben oui, on le connaît. Écoutez, c'est assez fascinant comme histoire. Il était sur scène avec ses musiciens. Il s'est arrêté au beau milieu de sa troisième toune de son spectacle. Il a dit, je suis désolé, I'm sorry. La tête est tombée sur sa poitrine. Il est mort là.
Ben oui.
On se disait avec l'équipe, oh mon Dieu, c'est le genre de mort qu'on veut.
Ben oui.
Finalement, pas tant. Moi, je veux comme la mort de la mère de Céline.
Oui.
Ça a l'air que Céline, elle a pris son jet, est allée voir sa mère dans la nuit qui précédait la mort. Tous les enfants étaient là. Ils ont chanté, ils se sont embrassés, ils se sont raconté des histoires. Céline racontait, parce qu'elle avait un spectacle le lendemain, à quel point... elle était convaincue que sa mère avait attendu que tout le monde soit là.
Je suis d'accord avec elle.
Tu penses que ça marche comme ça?
Très d'accord avec elle.
Tu penses que oui?
Oh que oui.
Le corps attend? L'âme attend?
Le corps attend et il attend le bon moment.
Penses-tu qu'on décide vraiment du moment de la minute de notre mort?
Écoute, il y en a qui ont eu la zapette dans les mains toute leur vie puis ils continuent de l'avoir. Il y a des parents...
Mais comment ça se peut, ça?
Regarde, il y a des choses qu'on n'explique pas, Isabelle. Hein? Il y en a plein qu'on n'explique pas. Mais je peux te dire que oui, il y a des gens qui vont préférer mourir tout seuls. Ils attendent que la famille vienne. Ils vont profiter du temps que leur enfant... Moi, j'ai une madame qui prenait soin de tout le monde. Elle avait 25 tartes dans son congélateur pour ne pas en manquer parce qu'elle était recevante.
Ouais.
Et sa fille est nutritionniste. Mm-hmm. La madame avait fait 2 AVC, était à moitié consciente. Sauf qu'elle a dit à sa fille, « Va manger ». Pour elle, c'était important. Sa fille est allée dans le corridor chercher quelque chose. Quand elle est revenue, madame était partie.
Mmh.
Parce que pour elle, c'était comme ça.
Mais c'est tellement important.
Mon père a attendu que je sois revenue d'Europe. Il était complètement inconscient. J'ai dit, je m'en vais chercher maman. Attends-moi. L'infirmière m'a dit, t'as descendu le premier palier. Il a suspendu une respiration. Le deuxième, elle a dit, j'étais couru dans le stationnement, mais t'étais déjà partie. Mon père était comme ça.
Fait qu'il n'était pas entendu. Parce
il avait la
pas,
zapette
c'est
des
ça.
Mains. Ouais. Donc, même du plus profond de son inconscience, il a choisi de partir tout seul.
Ouais.
Alors qu'il y en a d'autres qui vont choisir de voir tout le monde. Tu sais, le fils qui est en chicane, puis le fils arrive, puis 5 minutes après, je lâche prise.
Ouais.
Oui, ça arrive.
Et quand
et
on
oui.
dit, toi, t'es médecin, c'est intéressant d'entendre un médecin dire ça. Vous, les rationnels de ce monde. T'sais, est-ce que tu crois
doubler
ça?
Des motifs.
Oui, quand même, oui. Mais est-ce que ça se peut que, tu sais, quand on dit tu peux y aller,
oui.
vas-y.
Oui. Oui. Oui.
Souvent, ça arrive que la personne lâche, puis c'est comme si c'était un go.
En fait, c'est un go par l'autorisation. Tu dois avoir le droit de partir. Maman, je suis assez grande, tu peux partir. Moi, ma mère a été réanimée 6 fois. OK? Puis. La 4e fois, elle dit, ça vous dérangerait-tu beaucoup si j'avais pas le temps, si j'appelais pas 911? Puis on s'est regardé, puis on a dit, est-ce que ça nous dérangerait? Bien, certain que ça nous dérangerait. Est-ce que ça nous ferait de la peine? Bien sûr que ça nous ferait de la peine. Est-ce qu'on comprendrait pourquoi tu le ferais pas? Oui. Est-ce qu'on te respecterait du plus profond de nos entrailles? Oui. Alors, mais elle a quand même appelé... Les secours quand elle s'est sentie mal. Mais elle est décédée pareil parce qu'à un moment donné, tu sais, le cœur va lâcher. Elle décède d'une insuffisance cardiaque.
Ouais.
Donc, oui, mais il y a des gens qui ont besoin pour mourir sereinement de se lâcher prise de la famille en disant inquiète-toi pas, on va être correct.
Donc là, on parlait de la. Tu sais, c'est intéressant. Quelle est la meilleure façon de mourir? On pourrait avoir de nombreuses.
Si on pouvait choisir. Mais on peut pas.
Mais tu sais, tu parles de. Tu dis le cœur, éventuellement, va toujours lâcher. Il faut vraiment qu'on aille à la pause. Mais puisqu'on parle de problèmes cardiaques, je suis sûre qu'il y a des auditeurs là, qui ont des questions, sans doute, pour notre docteur Laberge là-dessus, sur tous les problèmes qui sont reliés au malaise cardiaque, tout ce qui entoure la santé cardiaque. Il y a des gens qui sont.
Qu'on néglige
façon,
d'ailleurs.
Qu'on néglige
souvent.
Beaucoup, puis on va revenir là-dessus. Comment prévenir et tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des histoires, histoires à nous raconter par rapport à ça. Puis ça, il y a beaucoup d'inquiétudes quant au parce que chaque fois, puis là, en plus, Alain Choquette, on l'aime tellement. Oui. C'est un magicien. On l'aime, Alain. On le regarde, on dit, mon Dieu, comment ça, si lui, ça y arrive.
Qu'est-ce qui va m'arriver à moi?
Exactement.
Ben oui.
514-790-9850 pour nous joindre. Et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On s'intéresse à la santé cardiaque de nos auditeurs, bien sûr, parce que avec l'histoire d'Alain Choquette la semaine dernière, quand on a appris qu'Alain avait eu un malaise cardiaque, on s'est tous beaucoup inquiétés pour lui. Puis en même temps, ça soulève des questions par rapport à la santé de tout le monde, les hommes et les femmes. Je pense que dans les deux cas, c'est des maladies cardiaques un peu différentes, d'ailleurs.
On peut avoir une maladie avec les artères qui se bloquent. Communément, on appelle ça de l'angine, quand ça se bloque partiellement. Et quand ça se bloque complètement, ben là, c'est comme quand tu mets un élastique autour de ton doigt puis que tu lâches pas, ben le bout de doigt va mourir. Mm-hmm. Ça fait que le tissu cardiaque va mourir. Et ça, c'est une réadaptation parce que l'insuffisance cardiaque, c'est que s'il y a une partie de ton cœur qui pompe pas parce que c'est mort, ben l'eau va s'accumuler sur tes poumons, l'eau va s'accumuler en bas, tu seras plus capable de marcher, etc. Et l'insuffisance cardiaque, c'est comme l'équivalent du cancer pour le... C'est l'équivalent du cancer métastatique avec le cancer. Mm. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pourrir ta vie après et qui va augmenter ton risque de d'être malade. Tu sais, ta journée est faite quand tu t'en vas aux toilettes. Là, tu reviens puis t'es essoufflé. Alors, c'est le problème qu'on veut éviter.
On a Gilles avec nous. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour. J'aimerais avoir un avis de votre invité.
Oui.
L'idée, c'est que, bon, moi, j'ai 61 ans. Je mange pas mal des légumes, des fruits depuis... toute ma vie, j'en ai mangé, mais jamais été dans mon régime régulier, pas du tout. Alors, je voudrais avoir votre avis du fait que mon médecin me dit, ben, écoute, on a fait des tests de cholestérol, on regarde ça depuis une dizaine d'années. Mm-hmm. Depuis une dizaine d'années, on voit que tu te maintiens dans la moyenne. Mm-hmm. Je dis, mais je mange pas de fruits, mais légumes. Ma blonde s'inquiète pour moi. Tu manges pas de fruits, de légumes, non. Puis lui, il me dit, ben, regarde, c'est ta génétique. Vas-y de même. Fait que je dois avoir votre avis. Est-ce que.
Théoriquement.
On me dirige bien ou. Okay.
On vous dirige bien dans le sens des chiffres, OK? Mais les patients ne sont pas des chiffres. Or, est-ce que vous pourriez améliorer votre situation? La réponse est oui. Parce que notre chiffre de cholestérol ne nous donne pas le degré inflammatoire de votre système. Mm-hmm. Donc, si vous voulez augmenter les ingrédients anti-inflammatoires, à ce moment-là, vous allez augmenter vos fruits, vos légumes, diminuer la viande rouge et vous augmentez le poisson et vous allez augmenter vos antioxydants, vous allez augmenter votre résistance à l'inflammation et vous allez ainsi diminuer. Si vous suivez la diète méditerranéenne flexitarienne, là, on n'est pas fou, là, on n'est pas malade, là. Vous allez diminuer vos crises cardiaques de 70 à 80 %, vous allez diminuer vos cancers de 70 %, puis votre Alzheimer de 30 %. Avec un cholestérol identique. Ouais. Fait que le jeu n'est pas nécessairement pour vous de jouer sur baisse, monte le cholestérol, mais ça va être sur les inflammations que vous avez quelque part dans votre système, que vous allez réduire. Ouais. Et votre 150 minutes d'activité physique va aussi les réduire. Mmh.
Voilà pour vous, Gilles. Sophie, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle. J'ai beaucoup de suivi avec mon médecin de famille parce que je souffre de fibromyalgie depuis l'an dernier. Mm-hmm. J'ai une intolérance à l'effort, donc je ne fais pas énormément d'exercices cardiovasculaires. Mm-hmm. Et mon père a eu 3 pontages subitement.
À quel âge?
À l'âge de 63 ans. Mm-hmm. Et ma grand-mère en avait 4. Ma grand-mère paternelle.
Au même âge.
Oui, exactement. Okay. Ma crainte, c'est que je me demande, est-ce que je suis à risque? Parce que, bon, je passe mes tests de sanguins sont normaux, là. Je veux dire, j'ai pas de cholestérol.
Vous avez du cholestérol, sans ça, vous mourrez si vous n'avez pas. Un cholestérol normal pour votre condition.
Exactement. C'est excellent. Mes prises de sang sont parfaites. Moi, j'ai demandé à mon médecin, j'aimerais que tu vérifies mes enzymes cardiaques et il veut pas. Il dit, il n'y a aucune raison.
Absolument, il a tout à fait raison. Ça donne absolument rien. Les enzymes cardiaques, madame, là, c'est important pour savoir combien de morceaux de cœur sont morts. Comme vous n'avez pas de morceaux de cœur de mort, on ne fait pas les enzymes cardiaques. Mm-hmm. OK? Ça ne nous donnerait rien. On va les faire quand vous allez faire un infarctus, si vous en faites un. Si on veut éliminer un infarctus, on va aller chercher les troponines, puis des fois les CPK, mais maintenant, on les fait de moins en moins. Mm-hmm. Ça fait qu'à ce moment-là, on va avoir cet élément-là. Et deuxièmement, pour vous, vous allez trouver une façon de faire un exercice aérobique de 15 minutes à votre rythme au départ avec un kinésiologue et vous allez diminuer votre risque inflammatoire.
15 minutes par jour?
15 minutes par jour en moyenne, et vous allez commencer tranquillement, vous allez augmenter l'endurance, vous allez augmenter la douleur au début, ça va être infernal, mais à la longue, ça va améliorer votre fibromyalgie.
Bon. En fait, on dit quelque chose comme 150 minutes par semaine.
Elle, donc, ça serait moins.
5,
avec un
30 bon... minutes, 5 fois par jour, idéalement, mais tu dis un peu
mais
moins
elle,
pour
elle va avoir besoin, cette madame-là, d'un kinésiologue qui va calculer ses affaires, qui va y aller progressivement pour qu'elle y retrouve plaisir, douleur, douleur, plaisir, plaisir, douleur.
Au début, ça fait mal, mais éventuellement, ça...
D'habitude, ça améliore, ça diminue. Ouais. Ça augmente les endorphines, ça diminue la douleur.
Patrick, bonjour.
Patrick?
Oui, bonjour.
Oui, Patrick. Bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai mon père et ma grand-mère qui ont tous les deux été opérés. Là, ils sont fait poser une valve. Les deux, c'était une valve... ma grand-mère, c'était une valve vaginale, puis moi, mon père, c'était une valve mécanique.
OK.
Et moi, il y a 5 ans, ben, j'ai commencé à faire de la course, éventuellement des marathons.
Ouais.
J'ai même été, j'étais un peu inquiet, fait que je suis même allé voir un cardiologue qui m'a demandé la permission, puis il m'a dit, donne-y à go, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais savoir, c'est que l'électrocardiogramme que j'ai passé à l'effort, est-ce que ça élimine les causes, parce que j'ai entendu tantôt votre mot, le tueur silencieux, puis ça, ça a l'air des causes qui sont comme inconnues, qu'on ne peut pas détecter. Est-ce que ça a été détecté, ça, à l'électrodiogramme à l'effort?
Théoriquement, vous, avez-vous passé un écho cardiaque? Parce que l'électro va nous donner les problèmes électriques de conduction.
OK.
L'échographie va nous donner la forme du cœur. Comment vous êtes fait?
Mm-hmm.
Dans votre famille, comme vous avez eu des problèmes de valves, puis c'est une bonne question, il faudrait peut-être aller regarder les vôtres, vos valves. Pour
donc
voir
ça,
si vous avez pas, d'habitude, c'est une échographie qui va nous donner cette information-là. Et souvent, ils vont faire les deux ensemble.
Et pas besoin de voir un cardiologue. Hein. Je pense, voilà pour vous,
voilà.
Patrick. On peut aller voir son médecin de famille.
Absolument.
Tu disais,
absolument. Et le médecin de famille peut prescrire un échocardiaque, puis il peut prescrire un électrocardiogramme à l'effort. Le cardiogramme à l'effort est souvent fait par des techniciens de haut niveau ou avec un cardiologue à côté. Mmh. Parce que s'il arrive quelque chose, il faut que le cardiologue dise non, 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 arrête.
Oui. Hey, j'ai une nouvelle pour toi.
Vas-y.
On parlait de cancer de la prostate tout à l'heure.
Ouais.
Il semble que la ministre de la Santé, Danielle McCann, a décidé d'évaluer la possibilité de rembourser
c'est
les
bon.
Médicaments
ben oui.
traitant la dysfonction
super.
Érectile. Elle dit qu'elle a vu ça dans les médias un peu, là, tout ce qui se disait. Donc là, elle va regarder ça.
Parfait. Donc, c'est l'INAES qui va regarder ça. C'est l'Institut national de la... C'est ça, de l'excellence en santé et services sociaux.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà pour les gars tout à l'heure.
Fait que suivez l'INES et son développement.
Non,
ils
mais ça veut
dire
que ça vaut
si
la peine
c'est...
de faire des pétitions puis qu'on en parle dans les médias.
Regarde, actuellement, c'est par les médias qu'on passe pour avoir le médicament de mon enfant où il y a un cas sur 10 cas au monde. Puis on passe toujours par les médias.
Ouais. Hey, merci beaucoup.
Je t'en
Christiane.
Prie.
Merci bien.
Déjà
docteur
fini.
Laberge était avec nous. Oui, mais on se souvient que. Oh, ce qu'on a dit, comment prévenir? Diète méditerranéenne, un peu d'exercice.
Et n'oubliez pas qu'il y a des réadaptations post-infarctus qui sont très importantes, entre autres le Santépic en fait. Et c'est excellent. Sexualité, alimentation, exercice, tout pendant 3 mois, de telle sorte que vous gardez vos bonnes habitudes après.
Et si on a une petite douleur, ne pas lésiner avec
douleur
ça.
Douleur à l'effort qui arrête au repos, attention.
On va voir notre médecin.
Oui.
Merci beaucoup, Doc Laberge.
Bonne journée.
Tout de suite après la pause en entrevue sans filtre, je reçois le comédien Paul Doucet. Restez là.